Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous venons de lire ensemble en Genèse chapitre 2 et 3. Et c'est surtout les versets 34 du chapitre 2 jusqu'au verset 6 du chapitre 3 que nous allons considérer ensemble. Si vous visitez, et peut-être que vous l'avez déjà fait, le mont Gerbier des Gens, en Ardèche, vous trouverez trois petits filets d'eau qui sont les trois sources de la Loire. Des tout petits ruisseaux, rien d'impressionnant. Pour les traverser, il suffit de faire un pas, comme ça. Mais ces trois petits filets d'eau qui deviennent l'immense fleuve que vous voyez en traversant le pont de Chuviret, vous voyez si vous descendez au bord de la Loire, au centre de Nantes. Chaque immense fleuve, y compris le Loire, du monde, chaque immense fleuve commence avec un petit ruisseau d'eau. Et aux trois sources de la Loire en Ardèche, il est difficile d'imaginer l'immense fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire. Et ce matin, nous allons visiter la source de plusieurs immenses fleuves. Ce sont des fleuves qui coulent dans chaque pays du monde, des fleuves qui touchent la vie de chaque personne ici. Où qu'on aille dans le monde, ces fleuves sont là. Il y a le fleuve de la souffrance, il y a le fleuve du mal, le fleuve de la mort et le fleuve de ce que la Bible appelle le péché. Et ces fleuves n'existaient pas dans le monde que Dieu a créé au début. Nous lisons dans Genèse 1, 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. » Pas de souffrance, pas de mal, pas de mécontentement, pas de tristesse, pas de mort et surtout pas de péché. Le dernier verset du chapitre 2 décrit la vie de ceux qui vivaient dans ce monde, Adam et Ève. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Il n'y avait rien à cacher. Rien à cacher à Dieu, rien à cacher l'un à l'autre. Qui parmi nous peut dire « Je n'ai rien à cacher dans ma vie, dans mon passé ?» Personne, j'imagine. Mais Adam et Ève n'avaient rien à cacher. Ils n'avaient honte de rien. Le monde était parfait, un monde, vraiment un monde parfait. Mais comment, en vue de ça, à la lumière de tout cela, comment donc le monde est-il tombé en panne? Comment expliquer ces grands fleuves dont on vient de parler? Où en est la source? Qu'est-ce qui s'est passé pour dérégler ce monde parfait? Les premiers versets de Genèse 3 nous donnent la réponse. Et en étudiant ces versets ce matin, nous allons voir le caractère et la nature du péché d'Adam et Ève, mais aussi du nôtre. Nous verrons la tactique de Satan, le tentateur. Nous verrons la méchanceté et de la rébellion du cœur humain, de notre cœur. Et nous verrons combien nous avons besoin d'un sauveur pour nous sauver de ce péché qui est décrit dans ces versets. Voyons d'abord alors dans ces versets, le tentateur. Le tentateur. Verset 1 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme. Ces versets décrivent un dialogue surprenant entre Ève et un serpent. Mais est-ce que c'est vraiment un serpent qui tente Ève? Encore une fois, nous laissons la Bible expliquer, interpréter la Bible. Dans Apocalypse 12, verset 9, nous lisons « Le grand dragon, le serpent ancien, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 20, verset 2, l'ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Le serpent, oui, c'est un serpent qui est utilisé par Satan. Satan se sert d'un animal comme sa porte-parole. La Bible ne nous dit pas comment, mais Satan se sert quand même du serpent pour tromper et duper Ève. Alors si c'est Satan qui tente et séduit Ève, que pouvons-nous dire sur la personne de Satan? Il se manifeste pour la première fois ici dans ces versets, mais ailleurs dans la Bible, nous voyons qui il est. Dans Ésaïe 14, nous voyons que Satan est un ange, était un ange créé par Dieu, qui se rebelle lui-même contre l'autorité de Dieu. Je lis les versets 12 à 15 d'Ésaïe 14, qui parle de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'Assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et dans Luc 10, verset 18, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan est un ange créé par Dieu qui voulait être égal à Dieu, voire plus haut que Dieu. Il n'était pas content de la place que Dieu lui avait accordée. Il est devenu arrogant et orgueilleux. Et Dieu l'a jeté, chassé de sa présence. Et depuis, Satan cherche toujours à élever son trône au-dessus de Dieu. Il fait tout pour s'opposer à la parole et au pouvoir de Dieu. La Bible ne nous dit pas comment un ange qui avait été créé parfait a pu chuter. Comment le péché a pu germer en lui. C'est un des grands mystères de l'histoire de l'univers. Dieu a décidé de ne pas nous dire. Nous savons simplement qu'en toute chose, Dieu est à l'œuvre pour manifester sa gloire et pour la gloire de son nom. Toute chose existe pour que la gloire de Jésus soit manifestée. Mais ça reste quand même un mystère pour nous. Cependant, Dieu a bien choisi de nous montrer la suite de la rébellion de Satan. Et voilà, dans Genèse 3, pour la première fois sur terre, Satan prend possession du corps d'un serpent pour entraîner l'humanité à suivre sa rébellion contre Dieu. Voilà le tentateur devant nous. Voyons en deuxième lieu la tentation. La tentation de pécher, de désobéir à Dieu, ça fait partie de notre expérience de tous les jours. Personne ne peut dire « je ne suis jamais tenté ». Peut-être que les tentations auxquelles nous devons faire face sont différentes, mais nous tous, nous sommes tentés. Examinons alors la tactique de Satan en sachant qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis. Voyons les différentes étapes de Satan. D'abord, il méconnaît les structures d'autorité que Dieu avait mises en place. Ève avait été créée égale à Adam, créée comme lui, à l'image de Dieu, mais dans leur couple, Dieu avait donné une place d'autorité. Ils étaient tous les deux, après, ils étaient tous les deux sous l'autorité de Dieu. Alors, il y avait Dieu, Adam, Ève, et puis après, il y avait des animaux. Et tout de suite, Satan se sert d'un animal pour renverser ce système d'autorité que Dieu avait mis en place. l'animal qui est en dessous de l'autorité de l'homme et de la femme, c'est l'animal qui parle à la femme. C'est la femme qui parle à l'homme. Et l'homme n'écoute même pas la voix de Dieu. Il rejette l'autorité de Dieu. Satan, nous nous rappelons, avait été chassé du ciel parce qu'il s'était opposé à l'autorité de Dieu. Il voulait se mettre au-dessus de Dieu. Et maintenant, il met le rejet de l'autorité de Dieu au centre de la tentation. Alors, comment est-ce qu'il conteste l'autorité de Dieu? Il remet en cause la parole de Dieu. C'est la première chose qu'il fait. Quand il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence, ce qui est peut-être la première étude biblique, mais ce n'était pas pour connaître la volonté de Dieu, c'était pour juger la volonté de Dieu, pour rejeter la volonté de Dieu. Il commence une discussion sur la véracité de la parole de Dieu. Il remet en cause l'interdiction de Dieu. Et puis dans le verset 4, il va beaucoup plus loin. Ce n'est plus une question de remettre en cause la parole de Dieu. Il la contredit. Il dit, vous ne mourrez pas du tout. C'est très fort. Vous ne mourrez pas du tout. Il ne dit pas, il n'est pas tout à fait sûr que vous mouriez. Il est possible, mais pas sûr. Non, il est en contradiction totale avec Dieu. Dieu dit, tu mourras certainement. Satan dit, vous ne mourrez pas du tout. Il dit, Dieu a tort. Et en disant cela, il nie la doctrine du jugement de Dieu. Il dit que désobéir à Dieu n'est pas si grave que ça. Dieu exagère. Il n'y aura pas de jugement. Et s'il n'y aura pas de jugement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais Satan, il va encore plus loin. Il déforme le caractère de Dieu. Le verset 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il fait une représentation faussée de Dieu. Dieu, il est bon, Dieu est généreux. Mais est-ce que Satan le présente comme ça? Satan brosse un tableau très négatif de Dieu. Dieu vous a menti, il dit à Ève, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Quelle audace de la part de Satan de suggérer que le Dieu qui avait comblé Adam et Ève de bonnes choses était un Dieu égoïste, avare. Quelle insulte, quelle atteinte à son caractère. Satan porte atteinte à la bonté de Dieu. Dieu cherche à léser Adam et Ève. Dieu veut vous réprimer, dit Satan. Regardez tout ce que vous allez gagner si vous mangez ce fruit. Et Dieu prétend vous aimer. Mais il est si sévère, ce Dieu. Il ne veut pas que vous expérimentiez ces bonnes choses. Satan dit à Ève, vivez indépendamment de Dieu et tout ira mieux pour vous. Écoutez-moi au lieu d'écouter Dieu. Vous pourrez faire vos propres règles. Vous pourrez décider pour vous-même. Vous déciderez ce qui est bien pour vous. Regardez la liberté que vous aurez si vous m'écoutez. Vous vivrez mieux sans Dieu. Votre vie sera plus épanouie si vous m'écoutez. Parce que vraiment, vous n'avez pas besoin de Dieu. Allez-y, soyez libre. Soyez votre propre Dieu. Décidez pour vous-même. Satan fait miroiter ses avantages devant Ève. Mais il cache les vraies conséquences à Ève. Satan ne lui présente pas l'arrière-goût amer et mortel du fruit. Voilà le caractère de la tentation de Satan. Il séduit, Il remet en cause la parole de Dieu. Il nous fait penser que Dieu est sévère, dur. Et c'est intéressant même à noter qu'il se sert d'un nom de Dieu qui est différent. Le chapitre 2, nous lisons « l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu ». La suite du chapitre 3, c'est « l'éternel Dieu, l'éternel Dieu ». Là, c'est Dieu. Il prend un nom de Dieu qui est plus distant, moins intime. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il nous dit, Dieu est sévère, Dieu est distant. Il nous présente les côtés positifs et séduisants du péché. Vous méritez ça. Ça vous ferait du bien. Il essaie de nous convaincre que désobéir à Dieu n'a pas vraiment de conséquences. Il veut que nous rejetions l'autorité de Dieu. Décidez pour vous-même. Mais ce qu'il nous cache, c'est la misère, la culpabilité, la honte et surtout le jugement de Dieu contre le péché. Il veut que vous vous croyiez libre. Mais ce que vous trouverez au lieu d'être libre, c'est l'esclavage. C'est la honte. C'est des larmes de regret. On ne céderait jamais à la tentation si au moment de la tentation, on pouvait voir toutes les conséquences du péché. Si au moment de la tentation, on pouvait voir la réalité, l'horreur de l'enfer, on s'enfuirait le plus loin possible de la tentation. Mais Satan, il nous cache tout ça. Il nous dit... Continuez à vivre sans Dieu, sans obéir à l'autorité de Dieu, et tout ira bien. Satan dit, vous ne mourrez pas du tout. Il n'y a pas de conséquence de votre désobéissance. Mais il est menteur. Il est menteur. En Jean 8, nous lisons, Jésus l'appelle le menteur et le père du mensonge. Nous avons déjà lu Apocalypse 12, verset 9. Satan qui trompe le monde entier. Il nous trompe. Ça veut dire que nous tous, nous croyons ces mensonges. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Satan. Reconnaissez-vous sa tactique dans vos propres expériences ? Mettre à côté la parole de Dieu, oublier la gravité du péché, les conséquences du péché, essayer de vivre selon notre propre sagesse. Satan, je viens de le dire, n'a pas changé de tactique. Il veut toujours que nous disions non à Dieu, non à sa parole. Comment est-ce que vous répondez à sa tactique ? Comment devons-nous y répondre ? Regardons en troisième lieu la réponse d'Adam et Ève pour voir les pièges à éviter. Et dans cette troisième partie que j'ai appelée la chute, nous voyons une histoire bien triste. Nous faisons cela non pas pour juger Adam et Ève, non pas pour les condamner, parce que nous tous, nous sommes coupables. Mais surtout pour savoir comment résister à la tentation, nous-mêmes. Je pense que nous allons tous nous voir en Adam et Ève, parce que nous avons tous hérité cette même nature pécheresse. Mais si notre désir est de plaire à Dieu, de poursuivre la justice, nous ferons attention de ne pas agir comme Adam et Ève. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre alors ? De nos premiers parents. D'abord, il faut dire que Ève aurait dû rejeter toute atteinte à la parole et au caractère de Dieu. N'oubliez pas que toutes les bonnes choses dont Ève jouissait étaient les siennes, grâce uniquement à Dieu. Nous avons vu ça dans les études précédentes, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu. L'expérience d'Ève était que la parole de Dieu était une bonne chose, était positive. Elle avait toutes sortes de preuves autour d'elle de la bonté de Dieu pour pouvoir repousser Satan. Elle avait une relation parfaite avec Dieu. Aucune raison de dire que Dieu était sévère, que Dieu était dur envers elle. Pas une seule raison de mettre en cause la bonté et la générosité de Dieu. Pas une seule. Pourtant, elle oublie tout ça. Elle oublie tout ce qu'elle connaissait de Dieu. Nous avons chanté « Oublie aucun de ses bienfaits ». Adam et Ève ont oublié. Ève remet en cause la parole de Dieu. Dans le verset 2, elle déforme le commandement de Dieu et donne une impression incorrecte de Dieu, de sa bonté. Elle dépeint un Dieu qui est moins bon, moins généreux. Regardez bien ce qu'elle dit. Dieu, dans le chapitre 2, avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Dieu avait dit « Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf un. » Qu'est-ce que Ève dit en citant Dieu? Elle dit simplement « Nous mangerons du fruit des arbres. » Et ça, c'est beaucoup moins généreux que ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit « Tous les arbres, sauf un. » Ève dit « Le fruit des arbres. » Dieu avait donné une large autorisation de consommer tous les fruits, sauf un. Ève dit que Dieu leur avait donné simplement du fruit des arbres. C'est subtil, mais il y a quand même une différence. Dieu n'est pas si généreux que ça. Déjà en son cœur, l'attitude d'Ève envers Dieu est en train de changer. Et puis dans le verset 3, Ève change et déforme encore les propos de Dieu. Elle dit qu'il ne faut même pas toucher l'arbre. Mais Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Peut-être que c'était Adam qui avait dit à Ève ou Ève qui l'avait dit elle-même. Mais en tout cas, elle ajoute quelque chose à la parole de Dieu que Dieu n'a pas dit. Et en faisant cela, elle exagère la sévérité du commandement de Dieu. Elle exagère la seule restriction que Dieu avait imposée. Sa façon de voir Dieu est en train de changer. Dieu est-il si généreux qu'on avait pensé? Est-il si bon? Et puis, ça continue. Elle minimise la gravité de la désobéissance. Quand elle dit qu'il ne faut pas manger ni toucher, de peur que vous ne mouriez. Voilà pourquoi c'est important, cette traduction. Pour elle, la mort n'est qu'une possibilité. Mais ce n'est pas certain. Peut-être que vous mourrez. Ce n'est pas sûr. Mais nous savons que Dieu avait dit « Tu mourras certainement. » Dieu ne laisse pas de place pour le moindre doute. La mort est une conséquence certaine de la désobéissance. Mais dans l'esprit d'Ève, ce n'est qu'une possibilité. Elle minimise la gravité et l'importance de la désobéissance et la sévérité du jugement de Dieu. Elle déforme le caractère de Dieu et sa parole. Elle déforme ses propos. Et puis au moment de son choix, regardez bien ce qu'elle fait. Elle se laisse guider et influencer par ses propres désirs, ses propres appétits. Ce que la Bible appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous lisons dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Ce fruit plaît à ses appétits physiques, la convoitise de la chair. Ève marche par la vue et non pas par la foi. Le fruit était agréable à la vue. Voilà la convoitise des yeux. Et puis elle est influencée par son appétit intellectuel. Le fruit était propre à donner du discernement. Elle se laisse influencer par ce qu'elle veut. Et non pas par la parole de Dieu. Elle veut ce que Dieu avait décidé de ne pas lui donner. Elle dit non à Dieu. Oui à Satan et oui à ses propres désirs. Lors de la chute, Ève rejette Dieu, rejette sa bonté, rejette son amour et elle suit les mensonges de Satan. Elle décide qu'elle n'a pas besoin de la parole de Dieu. Elle met sa propre autorité au-dessus de celle de Dieu. Moi, je vais décider. Elle décide pour elle-même ce qui est bien. Elle juge la parole de Dieu pour voir si la parole lui convient. On entend souvent ça de nos jours. Les gens qui rejettent telle ou telle doctrine, tel ou tel enseignement de la parole de Dieu. Oui, certaines parties de la parole, ils sont contents de les accepter. Mais d'autres parties qu'ils n'aiment pas, ils rejettent. Mais nous tous, nous pouvons faire ça. Le facteur déterminant dans le comportement, la décision d'Ève n'est pas la volonté de Dieu. C'est sa propre volonté, ses propres désirs. Quelle triste histoire. C'est vraiment triste, mais en lisant ce récit de la chute, il y a une petite phrase qui m'attriste particulièrement dans le verset 6. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donnait aussi à son mari qui était avec elle. Son mari qui était avec elle. Adam était là. Avec Ève. Adam, le chef de cette famille, était présent quand sa femme est entrée en discussion avec le serpent. Il aurait dû dire à sa femme, « Mais qu'est-ce que tu fais, Ève ? Pourquoi tu remets en cause la parole de Dieu ? Pourquoi tu parles de Dieu comme ça ? Arrête de parler avec ce serpent. Il contredit la parole de Dieu. Tu as tort, Ève. Dieu nous a dit que nous allons certainement mourir si nous mangeons de ce fruit. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut même pas discuter avec le serpent. Il faut croire à ce que Dieu a dit. Mais il y a du silence. Adam ne dit rien, Adam ne fait rien. Il prend et il mange. Il désobéit directement à la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée. Adam et Ève ont l'occasion de faire taire Satan tout de suite, mais ils ratent l'occasion. Ils écoutent sa voix et on connaît bien la suite. La femme écoute le serpent, l'homme écoute la femme, et personne n'écoute Dieu. On a parlé au début de la source de tous les fleuves dans notre vie. La souffrance, le mal, le péché, un monde qui est tombé en panne. Voici la source de chacun de ces fleuves. Voici la source du péché dans votre cœur. Romains 5, 12 que nous avons lu. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Satan a eu tort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous impliqués dans cette histoire. Le péché fait partie de notre nature depuis la chute. Le péché d'Adam est notre péché. Essentiellement, le péché, c'est dire non à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas donner à Dieu la place qu'il mérite. C'est décider de vivre indépendamment de Dieu. On sait que Dieu existe, mais on ne l'écoute pas. On juge Dieu. On trouve que Dieu est trop sévère, que sa loi est trop sévère. On décide qu'on est plus libre sans Dieu. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ce que vous êtes en train de faire, c'est rejeter l'autorité de Dieu. Vous dites avec le chanteur Frank Sinatra, « Je l'ai fait à ma façon. J'ai lu cette semaine que ça c'est la chanson, dans certains pays, c'est la chanson préférée pour les obsèques des gens. Je l'ai fait à ma façon. Quelle triste affirmation à la fin de sa vie. Je n'ai pas fait à la façon de Dieu. Je n'ai pas suivi Dieu. Je n'ai pas écouté Dieu. J'ai fait ce que moi je voulais faire. Vous dites non à Dieu. Satan vous a convaincu que vous serez plus libre sans Dieu. Il vous dit que vous n'avez plus besoin d'un sauveur pour votre péché parce que votre péché n'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a surtout pas de mort. Il vous a convaincu que Dieu ne juge pas, que l'enfer n'existe pas, peut-être. Donc, pas besoin de venir à Jésus-Christ pour être sauvé. Pas besoin de vous repentir. Vous ne mourrez pas du tout, dit Satan. Et chaque fois que l'évangile est annoncé, Satan est en train d'agir. Il faut venir à Jésus-Christ. Il faut vous repentir. Il faut être né de nouveau. Satan dit, pas du tout. Pas du tout. Dieu dit si. Et vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez entendu sa voix qui vous a dit de vous repentir, de venir à Jésus, Sauveur et Seigneur, de mettre votre confiance en lui, pour être né de nouveau, un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau maître. Vous avez entendu cette invitation, mais vous choisissez d'obéir à la voix de Satan, qui vous dit que vous n'avez pas besoin de ça. J'espère que ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, j'espère que vous voyez la folie d'Adam et Ève. J'espère que vous voyez ce que Satan est en train de faire avec eux. Vous voyez bien, j'espère. Mais pourquoi ne voyez-vous pas ce que Satan est en train de faire avec vous? Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Satan vous chuchote à l'oreille. Jésus a-t-il vraiment dit? Et puis il va plus loin. Il ne faut pas du tout que vous naissiez de nouveau. Qui allez-vous croire? Jésus ou Satan? Si vous n'êtes pas encore chrétien, la Bible vous dit que vous êtes mort à cause de votre péché. C'est comme si c'était vous qui avez pris le fruit dans le jardin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous offre, vous offre le pardon et la vie. Je viens de lire ce verset de Romains 5, mais en voilà un autre. Quand par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Adam et Ève, Adam a été tenté et Adam a chuté. Adam a désobéi. Jésus a été tenté, mais Jésus a parfaitement obéi. Jésus n'a jamais péché, pas la moindre faute. Jésus a mené une vie parfaite, une justice parfaite, mais sur la croix, cet homme juste, Jésus-Christ, a été puni par Dieu. Parce que sur la croix, il a pris la place des gens comme vous et moi. Il a pris le péché de son peuple, la condamnation de son peuple, le châtiment. Et il donne en échange sa justice. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Avez-vous reçu cette justice de Jésus-Christ? A-t-il effacé votre péché? Et si vous êtes chrétien ce matin, si votre confiance est placée en Jésus-Christ pour vous sauver de votre péché, votre désir est désormais de vivre par la foi en la parole de Dieu. Votre désir est de suivre la voie et non pas la voie de Satan. Satan n'est plus maître dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de le suivre, de l'écouter. Dieu, par son Saint-Esprit, il vous aide à dire non à Satan. Il vous donne des promesses dans sa parole pour vous aider dans cette lutte. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez et il fuira. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous donne des armes pour nous aider à tenir ferme contre les ruses du diable. Servons-nous de ces armes. L'arme de la parole, par exemple. La prière. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez. Nous devons nous donner de nouveau à la prière. Prions que Dieu nous aide à reconnaître la tactique de Satan. Prions que Dieu nous aide à dire non, à nous servir des armes spirituelles. Prions que Dieu nous fortifie par sa parole. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, 13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez le lien entre la parole en nous et la victoire contre Satan. Un lien direct entre la parole et notre capacité de vaincre le malin. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été tenté ? Il s'est servi de la parole pour répondre aux tentations. N'écoutons plus la voix de Satan. Gardons au moment de la tentation la réalité de l'amour, de la grâce et du jugement de Dieu constamment devant nous. Dès que nous entendons la voix de Satan, répondons-lui avec la parole. Sortons l'épée de l'esprit, qui est la parole, et servons-nous-en. Le premier Adam a chuté, mais le dernier Adam, Jésus-Christ, a vaincu. Et grâce à sa victoire, nous aussi, nous pouvons vaincre. Que Dieu nous remplisse de son esprit pour que nous expérimentions chaque jour cette victoire qui est la nôtre grâce à la victoire de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer quelques moments maintenant.